What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No,
no. Not wounded, sir.
Get
it's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa chiedisci? Come fa chiedisci?
Bienvenue à Cinémascope cette semaine encore, cette fois en comité restreint avec voilure réduite mais néanmoins qualitative, on va dire ça. Nous avons à l'affiche trois films cette semaine et nous sommes deux pour en parler car votre serviteur est en compagnie de René. Bonjour René.
Bonjour à vous tous.
Et c'est Sylvain, comme d'hab, qui met tout ça en onde. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Et merci. Les trois films en question, l'ai-je dit ? Non. Il s'agit de Hamnet, un film de Chloé Zhao, dont on va donc parler, qui tourne effectivement, comme le titre l'indique, à peu près à une question d'Hamlet et donc de Shakespeare. On verra dans quelle mesure ce rapprochement se justifie. Ensuite, place aux Escales Patrimoine, puisque ce mois-ci, c'est Paris-Texas qui va être projeté à trois reprises, comme il est de coutume avec les Escales Patrimoine. Hein. Chaque mois, un film projeté trois fois aux trois horaires habituels des projections. Donc Paris-Texas a été projeté jeudi, hier, à 18h30 avec une petite présentation, et il sera reprojeté lundi à 15h, c'est l'autre horaire un petit peu canonique, et puis enfin mardi à 20h45, donc en soirée pour ceux qui travaillent. Voilà. Alors Paris-Texas, évidemment, un classique, c'est le principe des Escales Patrimoine dont nous allons dire quelques mots. Enfin, une énième adaptation au cinéma d'un court roman de Maigret, de Simenon, bien sûr. On finit par prendre un nom pour l'autre, tellement.
Mmh, tout à fait.
Voilà. Bon, on commence par Hamnet et on entend ce que ça donne un petit peu.
Raconte-moi une histoire.
Quelle histoire souhaiterais-tu ?
Quelque chose d'émouvant.
Est-ce vrai que tu sais tout d'une personne en la touchant ici ?
Pas tout.
Et lorsque tu m'as touché, qu'as-tu vu ?
J'ai vu un paysage.
Un paysage ?
Des espaces, des cavernes, des souterrains et des océans. Des contrées sauvages.
Seras-tu brave ?
Oui.
Seras-tu brave ?
Un gouffre sombre, noir, profond. Je serai brave.
Voilà. Sur ce fond musical splendide et symphonique, nous avons entendu Agnès et William Shakespeare, son mari. D'habitude, on dirait plutôt William Shakespeare et sa femme Agnès, mais et leur fils qui fait une très brève apparition sonore pour dire qu'il jouera peut-être dans une pièce, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, c'est l'histoire d'Agnès et William Shakespeare qui font le deuil de leur jeune fils Hamnet, âgé de 11 ans quand il décède.
Mmh. Alors, oui. Voilà, donc vous avez déjà parlé de ce film, mais...
Oui, mais c'est lointain déjà dans mon esprit.
J'y reviens parce que bon, ce film va circuler, je ne sais pas trop s'il est au programme des cinémas de la région, mais beaucoup de gens verront ce film un jour ou l'autre. Et puis bon, je pense que c'est un film réussi et important, donc c'est une occasion pour en parler, pour en reparler, pardon. Alors moi, ce qui m'a frappé, et c'est pour moi la qualité numéro un de ce film, c'est la qualité de la reconstitution d'une époque et d'un lieu. Les décors sont plus vrais que nature. Les maisons dans lesquelles se déroule l'action sont tellement convaincantes avec cette semi-obscurité liée au fait que les fenêtres sont petites, qu'on a peu pour s'éclairer, même en plein jour. Les murs en torchis, la présence du bois et, dans la dernière partie du film, le théâtre The Globe, qui existe en ce moment à Londres. Il a été reconstruit, il faut dire reconstruit, parce que l'original existait à l'époque de Shakespeare et avait brûlé, de son époque d'ailleurs. Il avait été entièrement détruit, ce qui était, vu qu'il était fait essentiellement en bois, ce genre d'accident était courant. Et donc là, la dernière partie du film se déroule dans cette copie conforme de l'original, qui a été reconstruit il y a une trentaine d'années et qui... Je me rappelle y avoir amené des élèves du lycée Marcel Gimond. C'est devenu un objet de visite à Londres, populaire. Voilà, donc il y a cette qualité-là. Et autre réussite du film, le personnage de la femme de Shakespeare, merveilleusement interprété d'ailleurs par Jessie Buckley. C'est un personnage si riche, à la fois épouse, mère au courage, et douée d'un savoir assez étonnant sur la nature. Toutes les plantes lui semblent familières. Elle a un contact privilégié avec les animaux, comme le montre cet oiseau qu'elle a dressé. Elle a, enfin, un faucon, je crois. Elle a cette proximité donc, avec la nature, proximité que nous avons perdue.
Presque sorcière, un peu.
Voilà, et c'est le mot que j'allais dire. Pardon. Un peu sorcière, tu as raison. Non, mais c'est bien que tu le dises, tu vois, c'est pas une illusion, je me trompe pas. Un peu sorcière à l'époque où on est obligé, nous, de construire des zoos en ville avec des vaches, des moutons et des chèvres, parce que les enfants n'en ont jamais vu en vrai. Alors qu'à l'époque de Shakespeare, il suffisait de sortir dans la rue pour voir des animaux. Et ça, c'est très agréable dans le film et c'est très bien fait. Ce que j'ai moins aimé, c'est le lien qui constitue le ressort de l'intrigue, à savoir le rapport étroit qu'il y aurait entre la mort du fils de Shakespeare et la tragédie de Hamlet. Ce rapport ne me semble pas évident du tout ou pas convaincant dans la façon dont il est mis en scène. Alors, c'est peut-être un problème de médium. Le médium cinématographique s'y prête pas, peut-être. Peut-être que celle qui a écrit le roman et qui a fait le scénario s'est dit que si elle insistait là-dessus, ça serait bavard. Et que donc, elle n'a pas parlé. Mais c'est un défaut du film, incontestable pour moi. Autre défaut, alors ça, c'est peut-être plus personnel. On sera moins peut-être d'accord avec moi. J'ai moins aimé... en ce qui concerne le personnage même de Shakespeare, alors l'acteur n'est pas en cause, il fait le job là, Paul Mescal, il fait il tient le rôle qu'on lui a donné, mais je trouve que c'est un Shakespeare un peu transparent. On dirait que ses talents de dramaturge sont un peu comme Obélix et la potion magique. On ne sait pas d'où ça vient. On voit jamais un bouquin. On voit jamais la moindre discussion littéraire ou esthétique avec quelqu'un. Alors qu'on sait très bien que Shakespeare connaissait bien l'histoire, les conflits franco-anglais. Il s'inspirait beaucoup d'histoires puisées dans la Renaissance italienne, donc des trucs contemporains à lui. Il puisait certains de ses juges dans la Grèce antique, dans la Rome antique. Là, on ne sait pas comment il est devenu écrivain.
En regardant les oiseaux voler.
Ouais, peut-être, mais bon, il y a une petite forme de naïveté là qui passe pas très bien. Mais bon, c'est pas fondamental. Le film reste quand même un film intéressant, même un beau film.
Oui, alors en t'entendant parler, je pensais évidemment à la filmographie de Chloé Zhao. Ouais. Donc les chansons que mes frères m'ont apprises, par exemple The Rider, Nomadland, sont des films où effectivement le rapport de l'homme à la nature et aux fondamentaux est quand même bien mis en avant. Et effectivement, le rapport avec une culture, comme les chansons que mes frères m'ont apprises, sont sur les natifs américains qui se regroupent en espèce de concentration pour retrouver certaines de leurs coutumes, effectivement. Donc, Chloé Zhao décline, on va laisser de côté les Éternels qu'elle a
a réalisé en 2021, qui est un film de super-héros. Bon, je pense que dans sa filmographie, ça fait un petit peu... une parenthèse, enfin, je sais pas. Voilà, quelque chose. En plus, peut-être dans le genre, même pas aussi bien réussi que ça. Mais le reste de sa filmographie est vraiment passionnante. Et alors, effectivement, on a... Moi, ce qui me... Évidemment, on peut pas s'empêcher de penser à la présence de William Shakespeare déjà dans la culture anglaise et ensuite dans la culture mondiale. Il y a quand même pas beaucoup d'exemples de personnes historiques, auteurs, ayant une telle influence dans la culture.
C'est énorme, oui. Tout à fait. Il a influencé tout le monde. J'ai trouvé un écrivain qui ne l'aimait pas. Mais c'est de la jalousie, c'est Tolstoï. Tolstoï n'aimait pas du tout Shakespeare, mais je pense qu'il en était jaloux. Ne pas aimer Shakespeare, c'est trop... Et puis il y a une chose qui est très intéressante chez Shakespeare, c'est ce qu'étudie un auteur dont on avait parlé la dernière fois, Erika Orbar. Shakespeare est un bel exemple de mélange des genres. Il y a de tout dans Shakespeare, il y a le registre élevé, il y a le registre populaire, et à l'époque c'était quand même une certaine minorité, ça. On est à la Renaissance, le Moyen-Âge n'est pas très loin, on mélangeait peu les genres, ou pas à ce point. Et lui, il les mélange, mais avec un bonheur assez exceptionnel.
Et il s'amuse même, je pense au Songe d'une nuit d'été, où on a pratiquement une pièce dans la pièce, donc une pièce un peu ridicule, un peu populaire et ridicule, à l'intérieur de l'action principale, qui est un drame amoureux.
Tu soulignes là la plasticité de l'écriture de shakespearienne qui effectivement a permis à des auteurs tellement différents, dans des pays tellement différents, à des époques tellement différentes, d'adapter Shakespeare. Je me souviens d'avoir vu à Liverpool, pour l'anniversaire de son, je ne sais pas, 400e anniversaire de sa mort, quelque chose comme ça, ou 500, je ne me rappelle plus, il avait représenté une vingtaine de scènes dans différents endroits de la ville. Alors on se déplaçait dans la ville, et c'était un florilège. Ça a commencé avec le cinéma muet. Ils ont fait du Shakespeare muet. Il faut le faire.
Ouais.
Alors, il y a aussi ce qui s'y prête, que ces textes, contrairement...
C'est visuel aussi.
Ouais. Oui, parce que c'est des histoires... Il y a énormément d'aventures. Oui. Il se passe énormément de choses dans une pièce de Shakespeare, sans parler des tragédies. Donc, ça se prête au cinéma. Il n'y a aucun doute.
Ouais. Et alors, le visuel, bien sûr, et le cinéma. Mais nous disons, en France, pour parler de l'anglais, souvent, on dit la langue de Shakespeare. En Angleterre, on dit aussi, comme nous disons la langue de Molière, est-ce qu'en Angleterre, ça se dit de dire la langue de Shakespeare pour dire l'anglais?
Ah, ça, c'est une bonne question. Non, je pense pas. Mais bon, il n'empêche qu'il est mis à toutes les sauces.
Oui, voilà.
Il est cité abondamment. Enfin, je veux dire que les livres imprimés sur Shakespeare, c'est une source de revenus colossale. On ne s'en rend pas compte, mais il y a y compris les « Shakespeare made simple ».
c'est pour les nuls.
Le gros problème aujourd'hui, je trouve, en France par exemple, des adaptations de Shakespeare à la scène ou au cinéma, c'est que on utilise parfois des traductions qui sont une catastrophe. Ouais. Qui le vide de toute substance, parce que Shakespeare, c'est une langue. Et elle est d'une richesse incroyable. Ça rejoint le personnage, et ça, c'est une réussite du film, de Agnès, qui a une connaissance du monde naturel exceptionnel. L'imagerie shakespearienne est surabondante dans ce domaine.
Oui, c'est assez fou. Ça rend d'autant plus surprenant le fait qu'on ne voit chez lui aucun livre, comme si cette langue, il l'avait apprise dans les ruisseaux. Voilà.
Exactement.
Bon, donc c'est pas le cas. C'est vrai, quand on imagine quand même qu'une phrase comme « to be or not to be, that is the question », il y a, je sais pas, 9 Français sur 10 connaissent cette phrase-là. Quoi.
Pas plus loin, mais jusque-là, oui.
Oui, mais jusque-là, c'est assez extraordinaire. Alors, pour les amateurs qui auraient un petit peu de connaissance d'anglais, etc. Il faut quand même signaler la langue de Shakespeare est une langue, c'est de l'anglais ancien.
Ah.
Et donc, ce n'est pas immédiatement accessible à un Français qui s'initie à l'anglais. Ouais. Hein,
c'est terriblement difficile. Ouais. Vous savez que les ça pose problème aux Anglais eux-mêmes. Les professeurs de littérature anglaise ont demandé aux autorités de ne pas leur imposer, en classe de troisième, mettons, l'étude d'une pièce de Shakespeare. Ils disaient, si on fait une pièce de Shakespeare, pour que les élèves comprennent, on y passe l'année.
On y passe l'année, voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Entre la richesse linguistique, la richesse historique souvent du sujet, etc., effectivement, on peut passer un an tranquillement sur Richard III.
Alors il y a des pièces plus faciles que d'autres. Jules César, c'est relativement facile. Il y a des pièces qui sont redoutables. Hamlet, moyen. Macbeth est relativement facile. Je me rappelle plus. Il y en a une dans Les Joyeuses Commères de Windsor, ouais. Ou As You Like It. Ouais. C'est très difficile. Oh, c'est un boulot incroyable pour lire ça.
Et ouais. En tant que professeur d'anglais, on peut étudier Shakespeare avec les élèves français?
Des extraits. On peut faire des extraits de Jules César. On doit pouvoir faire des extraits de Beaucoup de bruit pour rien. Ouais. Ça, je me rappelle l'avoir fait d'ailleurs. La scène du balcon de Shakespeare, de Roméo et Juliette. Pas un entier, mais le début, et on peut le faire, oui.
On peut le faire,
oui, bien sûr.
Pour... Et alors, évidemment, Shakespeare, son influence, on a parlé il y a quelques semaines ici même à Cinémascope du cinéma d'Orson Welles, et on avait souligné à quel point son cinéma était shakespearien. Alors là, c'est au-delà de la citation, c'est un esprit, quoi.
Enfin, complètement, il s'est immergé là-dedans. Ouais. Il y a une espèce de... Je sais pas, il se prend pour Shakespeare.
Je crois.
Il avait un ego assez surdimensionné. Hein.
Un petit peu. Et puis il a beaucoup travaillé Shakespeare et le théâtre, et etc. Et à tel point, donc, qu'effectivement, certains de ses personnages, à commencer par Citizen Kane, est un personnage, on l'avait dit, shakespearien.
Tout à fait.
Vraiment. Voilà. Donc, beaucoup à dire. J'avais l'intention, en venant là, de faire une espèce de tour des adaptations de Shakespeare au cinéma pour en parler, j'ai laissé tomber, hein, parce que c'est pas possible.
Tu y passes l'émission.
Oui, plus encore. Donc je peux juste conseiller ça comme chemin de recherche aux auditeurs. Allez regarder un peu comment Shakespeare a inspiré le cinéma avant d'inspirer Chloé Zhao, et là vous allez être, à mon avis, impressionné par le...
On peut citer quelques bons exemples. Il y a le Macbeth de Polanski est très bon.
Ouais.
Ce que tu as cité, Orson Welles, c'est excellent ce qu'il a fait.
Ouais.
Voilà, si les gens veulent voir. Hein.
Bon, voilà. À bûcher.
Et au Japon, Kurosawa a fait une adaptation d'une pièce de Shakespeare.
Ah ouais.
Je sais plus laquelle d'ailleurs.
Donc c'est vraiment étonnant, mais c'est vraiment universel. Je crois qu'il y a dans à l'échelle mondiale, il y a pas beaucoup d'auteurs qui ont cette influence là sur la culture universelle, quoi.
Enfin, ouais, qui ont cette plasticité qui a permis à tant et tant de c'est moins ambitieux, mais...
on en parlera donc en dernière partie d'émission. Shakespeare et Simenon, pourquoi pas l'anglais et le belge. Bon, je plaisante stupidement. Nous allons passer à toute autre chose, avec un film du répertoire, comme il convient de dire, Paris, Texas, de Wim Wenders.
I knew these people... They were in love with each other.
Travis, hey, have you seen Jane or talked to her? We thought you were dead, boy.
He was kind of raggedy and wild. And she was very beautiful. And he loved her more than he ever felt possible.
How long have I been gone, do you know?
4 years.
Is 4 years a long time?
It is for a little boy.
It just seems like everything has changed between us so fast, ever since Travis came.
You tell me what happened, Travis. Tell me what happened with you and Jane.
I gotta go away now.
Why?
Because I'm gonna find her.
Now come on, let's go.
I was hoping for all kinds of things.
But the biggest thing I hoped for can't come true.
Is there something, I don't know, is there something I can do for you?
Si vous voulez entendre comment on peut ne pas être objectif du tout sur un film, restez à l'écoute. Paris, Texas, c'est un de mes films préférés, donc on est mal parti pour l'objectivité critique, mais tant pis. Voilà, un homme réapparaît dans le... Je vous lis le début de l'article Wikipédia sur Paris, Texas. Un homme réapparaît dans le désert du Texas après avoir disparu pendant 4 ans. Il retrouve alors son jeune frère, mais ne donne pas d'explication sur son absence. Et là, c'est la première phrase de l'article Wikipédia. Après, il donne un synopsis plus complet qui dispense presque de voir le film si la seule chose qui nous intéresse, c'est l'histoire. Donc là, voilà. Mais voilà, un homme réapparaît dans le désert du Texas. Il retrouve son jeune frère, mais il lui donne pas, pendant, au bout de 4 ans, il lui donne pas d'explication. Alors, on apprend quand même, on peut en dire un peu plus sans gâcher. Les deux frères, donc, sont les frères Anderson, Travis, qui a disparu, et Walt, qui le retrouve. Ces deux frères ont été, ou sont toujours mariés. Un avec... Anne Anderson, jouée par Aurore Clément, l'actrice française, et Travis, qui a disparu, était le mari de Nastasia Kinski, Jane Anderson, dont on a entendu parler pendant la bande-annonce. En fait, vous avez 4 Anderson, 5 avec le jeune fils que Travis, l'homme qui a disparu, et Jane ont eu ensemble, leur jeune fils Hunter. Donc on a en tout 5 Anderson. Alors est-ce la splendeur des Anderson? Alors c'est en tous les cas une très belle histoire de reconstitution, de reconstitution des couples, de réattribution, parce que ce sont l'oncle et la tante du jeune Hunter qui l'ont pris en charge quand Jane et Travis ont disparu. Et donc, c'est une longue histoire. Le film dure à peu près 2h30. C'est la longue histoire d'une reconstitution. Et en même temps, c'est l'histoire d'une quête de soi et d'une quête de l'autre. Et Travis, qui apparaît, semble-t-il, tout oublié pendant son absence, paraît retrouver progressivement la mémoire. Alors, on ne sait pas s'il joue l'oubli ou s'il oublie réellement, mais en tout cas on assiste à la reconstitution d'une mémoire artificielle ou réelle. On voit que cette reconstitution de la mémoire ne peut s'opérer que dans nos relations aux autres. On le voit bien ça dans le film. Et on a il y a le frère de l'homme disparu, son métier c'est il crée des panneaux publicitaires, et on voit à un moment donné le montage d'un panneau publicitaire, c'est la pub pour Evian comme ça dans le film, et c'est comme un puzzle hein, on a l'impression que c'est l'image du film, c'est-à-dire on est en train de reconstituer un puzzle pour tout remettre en place, et donc c'est une quête en même temps de vérité, vraiment une quête de vérité sur la totalité, sur la chose et son contexte. Et ça a été tourné au Texas, mais un Texas, je dirais, filmé sous toutes ses coutures, parce qu'on a le Texas des grands espaces américains, bien sûr, mais on a aussi l'espace des motels, des aéroports, etc. C'est une autre version de l'Amérique. Et puis on a l'Amérique citadine avec Houston, merveilleusement bien filmé par Wenders. Et donc, il y a des moments, on a des prises de vue sur les gratte-ciel et sur les rues. On pourrait aussi bien être à New York, en fait, hein, d'une certaine manière. Même si, évidemment, Houston ne ressemble pas du tout à New York, c'est la question n'est pas là. Mais on a l'impression d'une vision de la totalité de l'Amérique. Mm-hmm. La photographie est magnifique. Elle est l'œuvre, entre autres, de... Je vais y arriver, d'Agnès Godard. Donc la française qui a assisté Robbie Muller qui est à la photographie. Donc une photographie qui pareil joue sur tous les genres, hein, des clairs obscurs, des nocturnes, des grands espaces lumineux, des intérieurs.
La couleur.
Voilà la couleur, un jeu assez riche sur les couleurs. L'assistante de Wenders, c'était Claire Denis. Ouais. Qui était son assistante ici, et la production est en grande partie française, c'est Anatole Doman qui a... C'est une production franco-américaine pour un film tourné par Wim Wenders, qui, comme chacun sait, est allemand.
D'accord.
Donc là aussi, on a une foultitude de choses, et la femme du frère du disparu, jouée par une Française, Aurore Clément, il est dit dans le film qu'elle est française. Et vous avez tout ce jeu donc sur Paris, Texas. Alors, il faut quand même expliquer un peu le titre, parce que Paris est une toute petite localité, mais minuscule, du Texas. Mmh. Et les parents de Walt et Travis donc qui a disparu, leurs parents, ben, le père en particulier, avait une blague. Comme il avait rencontré son épouse à Paris, Texas, il disait toujours, dans les conversations entre amis ou avec des gens, il disait toujours « j'ai rencontré votre mère ou j'ai rencontré mon épouse à Paris ».
Sans précision.
Sans préciser. Et donc, il laissait un blanc. Les gens, effectivement, le connaissant, trouvaient ça quand même tout à fait étonnant. Et il ajoutait au bout d'un moment « Texas
». Okay.
Donc, c'est Paris, Texas. Et non, il y a cette ambiguïté que j'aime bien parce que c'est rien que dans le titre, on a... une question et le rétablissement d'une vérité, en fait. Hein, ça, Paris, ah bon, Texas.
Ouais.
Et donc, Travis a acheté un terrain, parce qu'il est persuadé d'avoir été conçu à Paris, Texas. Et il a acheté un terrain à Paris, Texas, où il en a une photo, où on voit juste un terrain vague avec un panneau for sale. Voilà, c'est, voilà. Donc voilà le film. J'espère que j'en ai parlé correctement. Alors évidemment, moi je l'ai revu mercredi. J'ai de nouveau, je peux pas te dire combien de fois je l'ai vu, peu importe. Mais c'est encore une fois des surprises. C'est comme les classiques, hein, on découvre des choses qu'on pensait
inépuisables,
mm-hmm. complètement inépuisables, mm-hmm. à tous les niveaux, les dialogues, la photographie et même l'histoire, même la narration, l'histoire.
Ouais, si.
Donc René, tu as vu ce film?
À ma grande honte, je ne l'ai pas vu.
Tu ne l'as pas vu?
Ah, mais bon. Je vais le faire. C'est trop tard, là.
Non. Il y a une projection lundi et mardi.
Ah, ben écoute.
Lundi, 15h, et mardi, 20h45.
C'est dit.
Voilà. Mais par contre, on en parlait, c'est d'où peut-être ma confusion, nous reparlions de Wenders. Tu disais avoir apprécié Perfect Days.
Ah, j'ai adoré ce film. J'ai trouvé que c'était une espèce de contre-pied à tout ce qui cloche dans la société où on vit, qui était extrêmement salutaire. C'était un film respiration.
Ouais.
C'est un film qui respire, ce personnage respire une forme de santé qui est... D'ailleurs, sa nièce ne s'y trompe pas, qui s'identifie beaucoup plus à lui qu'à sa propre mère, qui, elle, patauge dans le
fric, apparemment.
Dans la distraction pascalienne. Enfin, voilà.
Exactement, oui.
Ouais.
Oui, c'est l'histoire d'un homme dont le métier est de nettoyer les toilettes à Tokyo.
Alors qu'il pouvait faire autre chose.
Alors qu'il pourrait largement faire autre chose. Voilà. Mais qui a choisi ça de manière un peu zen, hein, on va dire. Hein, voilà. Et alors, je voulais évoquer Perfect Days, qui est le dernier donc, de Wenders, avec son documentaire sur le sculpteur là, du Sud, là.
Ouais.
Parce que la thématique est très proche, hein, c'est-à-dire qu'on a, là aussi une recherche de vérité, une recherche de sagesse.
De sens.
De sens et de vérité, et ça aussi, ça contraste avec d'autres temps. Recherche de vérité, comme dans une enquête policière du type de celle que mène Maigret.
Le quai d'Orsay vient de m'appeler.
Et c'est pourquoi?
Je ne sais pas, sauf que c'est urgent.
Commissaire Maigret.
Je dois vous avertir que l'affaire est sensible. La victime n'est pas n'importe qui. Armand Berthier Lagès, c'était l'un de nos plus brillants ambassadeurs. Mademoiselle Larieux est à son service depuis 40 ans.
46.
Vous n'avez pas appelé la police?
Je devais d'abord prévenir le ministère. C'est ce que ma conscience m'a dicté. Je suis suspecte?
Personne n'est suspect, tout le monde l'est, mademoiselle. Vous n'avez rien entendu?
J'enlève mon appareil pour dormir.
Il y a eu 5 coups de feu, ça fait quand même beaucoup de bruit.
Je vous demande pardon?
Je veux savoir ce qu'elle fait, heure par heure.
Le quai d'Orsay me harcèle.
Monsieur le procureur, j'ai mon rythme.
Les lettres parleront peut-être.
Il y a des lettres ?
Sur près de 50 ans. Signée Izzy. Et cette Izzy, qui n'est autre que la princesse de Vuine, a enterré son mari hier.
Ma mère lui vouait une sorte d'amour mystique.
Pendant 50 ans, j'ai eu l'habitude de vivre avec lui, en pensée.
Bizarre, non ?
Il parlait de sa princesse comme d'une créature quasi surnaturelle, alors que...
Alors voilà. J'ai laissé quand même un petit peu de la bande-annonce pour les extraits de dialogue qui sont très, très percutants, comme ça. Il y a des questions-réponses du tac au tac et qui sont très simenon.
Alors, ça dépend.
Oui, ça dépend.
Justement. Et justement, quand on adapte, c'est toi qui es familiarisé aux adaptations de romans à l'écran. Une question qui se pose, c'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je change, qui se pose à tout scénariste et metteur en scène. Alors ça se pose peut-être pas de cette façon, la question se pose peut-être pas en ces termes, mais ça revient à ça.
Ah oui, ça revient à ça.
Il y a des choses qu'on garde, des choses qu'on change. Et je pense que ça revêt un caractère tout très particulier quand il s'agit d'adapter un Maigret, mais je vais y revenir un peu plus loin. Alors, dans ce domaine, Bonnizère, qui a réalisé le film, a fait le choix de Podalydès pour incarner le commissaire qui, dans les romans, est un type massif, un peu hiératique, avec un pardessus, engoncé dans un pardessus. Là, Podalydès, c'est pas du tout le genre.
Oui,
Podalydès, il est plutôt pas maigre, mais il est mince. Voilà, c'est pas un colosse. Non. Alors bien sûr, il a gardé la pipe, il a gardé le pardessus,
le chapeau,
la gourmandise de Maigret aussi. Mais la personnalité même de son Maigret n'est pas conforme à l'original. Le Maigret de Simenon est plutôt renfermé, c'est un contemplatif, c'est quelqu'un qui rumine. Dans le roman, c'est possible, puisqu'il y a le style indirect. Et il est paternaliste avec ses inspecteurs qui n'hésitent pas à appeler mes enfants. Dans le film qui nous occupe, il est plutôt pète sec. À l'occasion, il envoie balader ses inspecteurs. Il a la parole plus facile. Tu as parlé du tac au tac, c'est vrai. On a parlé du tac au tac et c'est ça. Alors, il y a peu de scènes de rue, de scènes extérieures, alors qu'il y en a beaucoup dans les films. Il y a plusieurs raisons à ça. Peut-être qu'il y a une raison financière aussi. Ça coûte plus cher de tourner dans la rue, j'imagine. Le fait que tout se passe à l'intérieur, c'est un petit côté théâtral, ça concentre l'action, ça ajoute à la dimension dramatique, c'est probablement un bon choix. Donc, ça va de dosage de fidélité au modèle et création. Voilà, tout ça, ça renvoie à la solidité du roman et à la solidité des romans de Simenon. Il suffit d'apporter quelques changements au modèle, à l'œuvre de Simenon, pour la transposer à l'écran. Et là, elle garde toute son intemporalité. C'est ça que je trouve intéressant. Dans 100 ans, avec quelques modifications, on pourra encore adapter les Maigret de Simenon à l'écran. Et on n'a jamais cessé de le faire dans le monde. Il y a des Maigret anglais, il y a des Maigret japonais, il y a des Maigret allemands, enfin, qui tournés par la télévision des pays respectifs que je viens de citer. Et ça marche dans tous les cas. Le dernier exemple en date est un Maigret anglais avec aux manettes Rowan Atkinson, qui est un comique, hein, c'est Mr. Bean. Et là, il joue un Maigret raide. Sérieux, et ça marche, c'est très convaincant. Voilà, on a parlé tout à l'heure de la plasticité de Shakespeare, de la littérature shakespearienne. Là aussi, il y a une plasticité, une facilité à adapter ça, qui est quand même assez remarquable. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il reste toujours une certaine contrainte. Pourquoi ? Parce que si vous adaptez un roman peu connu ou qui est pris dans l'histoire littéraire ancienne. Peu de gens le connaissent, et donc vous pouvez y aller. Je prends tout à l'heure, en dehors des micros, on parlait du film de Tavernier, Un coup de torchon, qui est tiré d'un roman de Jim Thompson. Et Tavernier a pris toutes les libertés qu'il a voulu, il ne s'est pas gêné, au niveau de l'espace, à tous égards. Avec Maigret, avec les adaptations des romans de Simenon, avec les Maigret, hein, je parle des Maigret, pas des autres romans, les Maigret, c'est particulier parce qu'on a affaire à des spectateurs qui sont des aficionados de Maigret. Et on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer quand même. Ou alors, on passe dans un autre registre. On prenait l'exemple tout à l'heure, on ne peut pas faire imaginer un Maigret qui fume la cigarette. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est intéressant de ce point de vue. C'est une liberté contrainte. Il y a un équilibre particulier entre la liberté et la contrainte dans ces adaptations-là. Il y a toujours un degré de contrainte, mais là, il est très particulier. Voilà. Autre chose, alors que pour en revenir au film proprement dit, ce que j'ai aimé aussi, c'est la qualité de la reconstitution du milieu dans lequel Maigret Podalydès enquête. Voilà, les intérieurs
bourgeois,
qui se prennent pour des aristos, les personnages qui sont les personnages qui se donnent du bon temps, mais qui cachent jalousement leurs frasques. Il y a ce côté hypocrisie du milieu. Je gage que l'affaire Epstein va donner au cinéma un florilège de films sur ce thème-là.
Oui, ça sera un petit peu ça, oui.
Ça sent déjà un petit peu ça.
Oui, donc le temps passe, effectivement. Je crois qu'on aurait pu discuter fort longuement de l'histoire de Simenon au cinéma. Je pensais en particulier à un autre film de Tavernier, L'horloger de Saint-Paul, qui est l'adaptation d'un roman de Simenon, mais pas un Maigret.
C'est pas un Maigret, ouais.
C'est un de ses romans américains, justement. Donc, transposition totale.
Mais là, il pouvait, parce que c'est pas un Maigret.
Voilà, c'est ça, tout à fait, complètement. Pour compléter juste, puisque de toute façon, on n'a pas le temps de développer ça, mais j'invite vraiment les auditeurs à aller voir. Tu parlais de beaucoup de scènes d'intérieur qui permettaient de concentrer les scènes de manière théâtrale. J'ai déjà dit, et je répète ici à propos de ce film Maigret le mort amoureux, que les seconds rôles sont merveilleux, avec Anne Alvaro qui joue la gouvernante, Irène Jacob qui joue la femme
là aussi il y a une renouvellement, c'est pas du tout Madame Maigret, popote du tout.
Non, c'est si vous voyez Irène Jacob, vous comprendrez ce qu'on veut dire. Il y a aussi donc Olivier Rabourdin, Julia Faure, Dominique Raymond, Laurent Poitronneau, Noël Simsolo qui joue un abbé très conservateur, enfin, etc. André Marcon, des noms qui ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais les visages, vous les connaissez, c'est certain. On les a vus déjà dans X films et on les voit concentrés là. Effectivement, dans ces scènes d'intérieur, c'est une des autres qualités nombreuses
de ce film.
Ouais. Avec effectivement le décalage dont tu parlais, avec le fait qu'on ait donné le rôle à Denis Podalydès. Voilà. Eh bien, l'émission est terminée. Et elle a duré aussi longtemps que d'habitude. C'est incroyable. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre attention. Merci Sylvain pour la réalisation. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.